Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. La place Beauvau. En littérature, la métonymie est une figure de style qui utilise un mot pour désigner une autre idée qui lui est associée. Dans ce cadre, la place Beauvau est devenue une périphrase pour désigner le ministère de l'Intérieur qui, depuis 1861, a son siège principal dans l'hôtel de Beauvau. Et c'est cet hôtel de Beauvau qui a donné son nom à la célèbre place du 8e arrondissement à Paris. Nous avons choisi dans le cadre des podcasts de l'ISP de revenir sur l'histoire de plusieurs espaces de pouvoir en nous intéressant autant à l'histoire des institutions qu'ils abritent qu'aux lieux eux-mêmes. Nous opérerons aussi des détours par l'histoire de Paris et en l'occurrence s'agissant de la place Beauvau, par un crime qui s'y est déroulé. Commençons donc ces podcasts et cette nouvelle série de podcasts en compagnie de Benoît Kennedy en évoquant la place Beauvau. Je vous rappelle que Benoît Kennedy, que nous avons donc le plaisir de recevoir aujourd'hui, est professeur de culture générale et de droit public au sein de la prépa ISP. Benoît Kennedy, bonjour.
Bonjour Jacob Bérébi.
Benoît Kennedy, donc pour inaugurer cette nouvelle série parmi les podcasts de l'ISP, est-ce que l'on peut commencer par revenir d'un point de vue géographique sur la place Beauvau et l'hôtel de Beauvau, sachant que leur situation est celle d'être à deux pas de l'Élysée, c'est-à-dire au cœur du pouvoir français? Cette proximité est-elle un hasard, selon vous ?
Oui, il n'y a pas de hasard, j'ai envie de dire, dans les lieux de pouvoir et la géographie des lieux de pouvoir, puisque d'ailleurs la protection du pouvoir exécutif fait partie des missions qu'on retrouve dans les forces de sécurité intérieure, à peu près dans tous les pays, qu'ils soient démocratiques ou non. Alors, vous parliez de la place Beauvau, elle se trouve effectivement dans le quartier de la Madeleine, dans le 8e arrondissement, à l'intersection de trois avenues. L'avenue de Marigny, de la rue de Miroménil, le faubourg Saint-Honoré, et c'est-à-dire au 55 de la rue du faubourg Saint-Honoré que se trouve le palais de l'Élysée. L'avenue de Marigny elle-même abrite en son sein l'hôtel de Marigny, du numéro 7 au 23, c'est une annexe de l'Élysée. On y retrouve un certain nombre de services de la présidence, mais aussi des logements pour les chefs d'État étrangers de déplacement en France, le théâtre de Marigny ou encore les boutiques Pierre Cardin, une des boutiques historiques, bref. Si on regarde bien, on est donc au cœur du pouvoir politique, mais également au cœur du pouvoir financier économique, à grande proximité des Champs-Élysées.
Alors, l'hôtel de Beauvau lui-même n'abrite le ministère de l'Intérieur que depuis 1861. Quelle est l'histoire du bâtiment, le siège du ministère de l'Intérieur n'étant d'ailleurs plus désormais limité au seul bâtiment historique de l'hôtel de Beauvau ?
Tout à fait. Comme dans beaucoup de lieux de pouvoir, en fait, un certain nombre d'autres espaces, d'autres bâtiments à proximité ont été incorporés pour finalement intégrer le centre, on pourrait dire, du ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur. Je dirais pas administration centrale, puisque l'administration centrale est effectivement beaucoup plus large. Si on revient sur l'hôtel de Beauvau lui-même, il était construit par l'architecte Nicolas Le Camus de Mézières qui s'écrit comme Charleville-Mézières, à partir de la fin des années 1760, pour le prince Charles Juste de Beauvau-Craon, donc qui a donné son nom donc à l'hôtel de Beauvau. De Beauvau-Craon est maréchal de France, secrétaire d'État à la guerre. Il fait construire sur cet espace un hôtel, un hôtel particulier, et il décédera en 1793. Sa veuve l'occupera pendant un temps. Ensuite, le bâtiment va changer de main. Il va devenir à un moment un hôtel de luxe. Et en fait, dans sa configuration actuelle, il s'agit des travaux et des agrandissements de l'espace qui ont été opérés par le banquier Ernest André. On peut d'ailleurs voir de cette époque les grilles, de très belles grilles qui sont de style Second Empire. Et le bâtiment lui-même va être cédé à l'État en 1859. Pendant une très brève période, il va abriter le ministère de l'Algérie et des colonies, qui sera dévolu aux frères de Napoléon III, et le ministère de l'Intérieur depuis 1861. Il faut savoir qu'avant cette date, le ministère de l'Intérieur était dans plusieurs espaces, notamment l'hôtel de Rothelin-Charolais, 101 rue de Grenelle. C'est là qu'ont travaillé quelques noms célèbres. Je pense à l'écrivain Georges Sand, qui a d'ailleurs donné son nom à un jardin et au hall qu'on trouve dans le bâtiment de l'hôtel de Beauvau actuel. Il y avait d'autres bâtiments, d'autres services du ministère de l'Intérieur qui étaient au Louvre avant 1861. Le bâtiment lui-même, on commence par entrer dans la cour d'honneur où se déroulent les cérémonies officielles. Un escalier d'honneur va mener à l'appartement du ministre avec un bureau de style empire, de date empire, qui est de 1812, qui est celui-même qui avait appartenu à Cambacérès. Cambacérès, dont je rappelle qu'il n'était pas le ministre de la Justice de Napoléon, il était justement pas le ministre de l'Intérieur, il était le ministre de la Justice. le ministre de l'Intérieur connu de cette époque étant Fouché, enfin le ministre de la Police. Le salon du ministre est aussi l'endroit où le titulaire du portefeuille ministériel de l'Intérieur reçoit ses invités. Et enfin, on retrouve, comme dans beaucoup de lieux de pouvoir, une galerie des portraits avec tous les ministres de l'Intérieur depuis Lucien Bonaparte, donc le frère de Napoléon Ier. À noter qu'on trouve aussi ceux du régime de Vichy. Donc, il y a toujours un débat pour savoir si Vichy fait partie de l'histoire de France ou pas. Pour le ministère de l'Intérieur, la question était tranchée par une réponse positive affirmative. Enfin, si on s'intéresse toujours à l'architecture du lieu, la dernière grande inauguration, c'est la salle des fêtes, lors de l'exposition universelle de Paris en 1900.
Alors, dans la mesure où la place donne sur le ministère de l'Intérieur, elle a été le lieu de manifestations parfois spectaculaires, alors il y a un certain temps, mais des manifestations dont vous voulez nous parler, Benoît Kennedy.
Tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, dès lors que les règles d'autorisation des manifestations sont plutôt mieux respectées, bon, je sais bien qu'on a l'exception des Gilets jaunes, la configuration même de la place Beauvau à proximité de l'Élysée, où ceux qui la connaissent savent que c'est des rues qui sont complètement fermées, l'entrée sur l'Élysée, et seules les boutiques, on peut traverser de l'autre côté, mais qui sont un certain nombre de boutiques, notamment de luxe. En tout cas, historiquement, ça n'a pas toujours été le cas. En 1883, c'est sur la place Beauvau que se tiennent des manifestations de chômeurs, chômeurs au sens à l'époque de privés de travail, hein, ce sont les journaliers payés au jour le jour, et surtout la manifestation du 6 février 1934, dont sont à l'origine les Croix de Feu et les ligues nationalistes, devant le ministère de l'Intérieur, qui va avoir un très fort impact, puisque c'est vu comme une pression de l'extrême droite sous le gouvernement. Et d'ailleurs, ce sera à l'origine de la création du Front populaire. Donc on peut dire que la place Beauvau a été aussi marquée historiquement par un lieu de pouvoir, en tout cas au plan politique.
Alors, laissons de côté un instant le ministère de l'Intérieur et l'hôtel de Beauvau. J'en parlais en introduction, un crime a eu lieu sur la place Beauvau, précisément au 98 de la place, dans ce qui était alors l'hôtel d'Orgemont.
Tout à fait. Hôtel qui est disparu vers 1915 et à sa place se trouve notamment une galerie d'art. Les faits se déroulent le 5 octobre 1879, entre 4h et 5h du matin. On découvre deux cadavres dans la cave de la pharmacie, puisqu'il y a trois boutiques en rez-de-chaussée, dont une pharmacie. Les deux cadavres sont identifiés comme ceux du pharmacien et de sa servante. L'enquête fera apparaître que l'assassin présumé était certainement un certain Walder, W-A-L-D-E-R, un ancien étudiant en pharmacie qui connaissait le pharmacien, et que la servante elle-même aurait été tuée alors qu'elle tentait de résister. Il aurait commis son crime avec un pilon. Or, cette affaire, aujourd'hui, on en retrouve des traces au musée d'histoire de la ville de Paris, le musée Carnavalet, avec un ensemble de gravures, de témoignages, qui représentent notamment l'assassin Walder. Et surtout, si cette affaire est aussi connue, c'est que la police a recherché activement Walder. L'issue de l'affaire elle-même donne lieu à un certain nombre de débats. Il semble qu'on ne le retrouve plus après 1884, mais il vient à Paris, il échappe. Et ça deviendra, pour la police qui est à deux pas de l'hôtel de Beauvau, ça deviendra le signe de l'incapacité de la police à résoudre finalement ce crime. En fait, on est quasiment déjà dans le prototype des cold cases, c'est-à-dire des affaires non résolues, c'est encore un peu différent parce que vous allez me dire, là, on connaît probablement l'assassin, mais tant qu'il n'est pas jugé, il bénéficie de la présomption d'innocence. Si aujourd'hui ce crime est oublié, à l'époque, il fera beaucoup pour critiquer déjà ce que d'aucuns appelleront l'impuissance du ministère de l'Intérieur à lutter contre l'insécurité.
Alors, la rue des Saussets, dont le numéro 11 fait partie du complexe historique du ministère de l'Intérieur, a longtemps été le siège de la Sûreté Générale avant d'abriter un temps la Direction Centrale des Renseignements Généraux. Est-ce que vous pouvez nous en parler, Benoît ?
Tout à fait. Je vous le disais, on a un complexe historique, c'est-à-dire qu'un ensemble de bâtiments ont été acquis aux alentours de la place Beauvau. Vous avez raison de citer le 11, la rue des Saussets, mais il y a aussi un ensemble de bâtiments qui sont rue Cambacérès. En fait, dès la fin du XIXe siècle, le 11 de la rue des Saussets devient le siège de la Sûreté Générale. Entre 1940 et 1944, ce sera le bureau de la Gestapo, à savoir la section 4 de la CIPO-SD, CIPO qui sont les sièges de la police de la sûreté, SD, services de sécurité. Ce sera pendant un temps le siège de la direction centrale des renseignements généraux, donc direction territorialisée du ministère de l'Intérieur, étant une des directions chargées du renseignement. Et aujourd'hui, on retrouve encore des sièges de la direction générale de la police nationale, mais aussi de la direction centrale de la police judiciaire. Bref, le 11 rue des Saussets est historiquement un bâtiment qui va marquer son nom, un peu comme on dirait aujourd'hui pour le Quai des Orfèvres.
Alors, revenons un temps sur l'histoire de la Sûreté Générale, puisque nous en sommes là de notre podcast. En 1907, le célèbre Georges Clemenceau décide de créer des brigades régionales de police mobile. Qu'en est-il, Benoît Quinet ?
Alors, et oui, déjà un peu d'histoire. Alors, parlons de la direction de la Sûreté Générale. Elle a été créée en 1853, sous le Second Empire, comme direction générale de la Sûreté publique. C'est un peu une police politique qui va s'occuper notamment des crimes urbains et qui, selon son histoire, aura plus ou moins d'autonomie par rapport à la préfecture de police. C'est surtout l'héritière du ministère de la Police Générale, un ministère qui était distinct du ministère de l'Intérieur. C'est-à-dire le ministère de l'Intérieur, on y reviendra peut-être, mais n'a pas toujours eu comme compétence la sécurité publique. Ministère qui avait été créé sous le directoire et qui avait été recréé en 1852 par Napoléon III, mais qui ne dura que 17 mois. Cette direction de la Sûreté Générale devient en 1903 un service du ministère de l'Intérieur, et en 1907, ça devient effectivement la direction centrale. C'est là que vont être rattachées les brigades régionales de police mobile. Alors pourquoi les brigades régionales de police mobile ? C'est assez ancien dans l'histoire de la police. La police des gares et des ponts se met en place dès le Second Empire, qui sont des lieux, du fait même qu'ils sont des lieux de passage, qui vont justifier un effort tout particulier d'effort de police. Les brigades régionales de police vont être dirigées par un commissaire, le commissaire Jules Sébille, qui va les diriger de 1907 à 1921. Le principe, c'est d'avoir des brigades territoriales, à l'origine 12, après elles vont augmenter, non seulement à Paris, mais dans les grandes villes de province, pour lutter contre une forme de banditisme qui explose dans les grandes villes, et aussi avec une criminalité qui utilise de plus en plus de techniques particulièrement sophistiquées. Ces brigades se retrouvent non seulement à Paris, mais dans les grandes villes de province, avec un commissaire qui va être à la tête de chaque brigade, et qui se voit confier des missions délicates, nécessitant de l'enquête, de la surveillance, de la filature, aussi ce qui sera le début de la police scientifique. Alors elles ont un équipement particulier, des limousines avec les modèles de Durbouton et Panard-Levasseur. On est quand même conscient que c'est le début du XXe siècle. Les voitures de la police, donc elles prennent véritablement en place autour des brigades régionales de police mobile. Elle va également, cette direction, on rappelle qu'on est à la Sûreté Générale, devient la direction centrale de la police judiciaire en 1913, dont le directeur sera Célestin Aignon, qui deviendra préfet de police de Paris. Et on trouve très vite, finalement, dans ces brigades qui ont été connues sous le nom de Brigade du Tigre, Tigre, le surnom de Georges Clemenceau, avec la série télévisée des années 70, des missions de police judiciaire. En fait, on préfigure véritablement ce qu'avait la mission de police judiciaire. Et de fait, on va avoir des résultats assez intéressants. Ce sont ces brigades qui, en 1912, vont arrêter la bande à Bonneau. Bonneau, c'est un groupe anarchiste criminel. En 1919, c'est également eux qui vont arrêter Henri-Désiré Landru, tueur en série. Et on va voir également évoluer progressivement, puisque vous parliez de la Sûreté Générale, son nom et ses fonctions. En 1934, elle devient la Sûreté Nationale, qui a des fonctions de police urbaine, de renseignements généraux, de police judiciaire, de surveillance du territoire. Puis la direction centrale de la police judiciaire, qui elle-même deviendra la direction nationale de la police judiciaire, c'est-à-dire réforme de la police, le 1er juillet 1923. Enfin, dans ses fonctions, en 1966, on a vu entre-temps la création de la direction générale de la police nationale, qui correspond à un effort d'unification des services de police après le scandale de l'affaire Benbarka. Bref, la Sûreté Générale, devenue la Sûreté Nationale, qui donnera naissance à la DCPJ, Direction Centrale de Police Judiciaire, actuelle DNPJ, Direction Nationale de Police Judiciaire, c'est aussi l'ancêtre de la Direction Générale de la Police Nationale. Certaines directions parmi les plus prestigieuses ou les plus emblématiques du ministère de l'Intérieur ont donc véritablement leur siège au 11 de la rue des Saussets.
Alors justement, puisque l'on en est à parler de compétences et de répartition des missions et des fonctions, le ministère de l'Intérieur a très longtemps eu une compétence large, voire très large, avant que celle-ci ne se focalise sur la sécurité intérieure et la sécurité civile. Pouvez-vous, Benoît Kennedy, nous retracer brièvement l'histoire et le champ de compétences du ministère de l'Intérieur ?
Oui, c'est important de voir qu'à la fin du XVIIIe siècle, on a moins de 10 ministères en France, et c'est très régalien, puisqu'on peut avoir à certaines périodes un ministère de la Marine qui est distinct, par exemple, des autres ministères de la Défense. Le ministère de l'Intérieur, il fait un peu tout. Alors aujourd'hui, les fonctions, elles sont effectivement basées, vous le disiez, Jacob Beribi, sur la sécurité intérieure, soit la sûreté et sécurité civile, mais aussi l'administration du territoire, c'est le réseau des préfectures, aussi tout ce qui va concerner l'élection et les relations avec les collectivités territoriales, les libertés publiques, y compris le ministère des cultes, qui aujourd'hui relève du ministère de l'Intérieur. Son nom lui-même dérive d'une fonction qui était la maison du roi. Et le secrétaire d'État à la maison du roi, nom d'ancien régime, reçoit en 1790 le titre de ministre de l'Intérieur, c'est Guignard de Saint-Priest, donc on peut dater la formation du ministère de l'Intérieur de ce changement de dénomination. Le champ a beaucoup changé, puisqu'en 1780, de 1796 à 1818, c'est-à-dire directoire, et jusqu'au début de la Restauration, la police est exclue du champ de compétences. Donc il y a un ministère de la police, ça peut nous sembler aujourd'hui tellement basique que le ministère de l'Intérieur s'occupe de la police et de la sécurité publique, et bien ça n'a pas toujours été le cas. On voit se détacher en 1824 du ministère de l'Intérieur le ministère de l'Instruction publique, voire qu'historiquement l'éducation nationale fait partie du ministère de l'Intérieur. En 1831, après plusieurs hésitations, le ministère du Commerce est définitivement établi, donc tout ce qui va être notamment aspect économique. En 1906, le ministère du Travail devient un ministère distinct, donc qui se distingue aussi du ministère de l'Intérieur, ce qui en dit d'ailleurs assez long que le travail est surtout vu dans une compétence, j'ai envie de dire, de police, de maintien de l'ordre. En 1911, c'est une direction qu'en est détachée la direction de l'administration pénitentiaire, qui est rattachée au ministère de la Justice. Et enfin, en 1920, la création du ministère de l'Hygiène, qui va progressivement voir le ministère de la Santé, même si des fonctions à l'époque de santé publique restent au ministère de l'Intérieur. Bref, un ministère très large, mais qui progressivement se voit démembré. Il retrouve la compétence de police qu'il avait perdue pendant une vingtaine d'années, fin 18e, début 19e siècle, mais il perd les fonctions éducation nationale, commerce, travail, santé.
Merci Benoît Kennedy pour ces précisions sur la compétence du ministère de l'Intérieur. Lorsque l'on a préparé cette émission ensemble, on s'était donné comme objectif aussi de présenter à nos auditeurs des grands personnages qui ont occupé les lieux et notamment des ministres de l'Intérieur, évidemment. Qui avez-vous retenu, Benoît Kennedy ?
Alors, on va en retenir trois. Déjà, première chose, je ne parlerai pas de Gérald Darmanin, qui est en poste depuis juillet 2020, en tout cas à l'heure où je prononce ce podcast, puisque je rappelle pour nos auditeurs, qui sont aussi des élèves qui passent des concours, vous évitez au maximum de citer des personnes en poste. Ça, vous risquez toujours de tomber dans un biais de manque de neutralité.
J'aurais pu vous... C'est une utile précaution.
Voilà.
Donc, comme ça, on ne prend pas forcément de risques.
On ne prend pas de risques.
Nous avons même un de nos collègues civilistes qui dit qu'il ne faut carrément pas citer de vivant.
C'est ça.
On ne risque de fâcher personne.
Eh ben d'ailleurs, je ne citerai pas de vivant. Je ne vous citerai même pas les anciens ministres de l'Intérieur qui sont devenus présidents de la République. Et il y en a eu trois. Un peu adressant de François Mitterrand, qu'il était sous la 4e République à partir de 1954. Jacques Chirac, qu'il était en 1974, brièvement aussi. Il viendra Premier ministre, ni Nicolas Sarkozy. Donc, je vais vous citer trois personnages qui sont morts. Donc... Georges Clémenceau, Marx Dormoy et Raymond Marcellin. Alors, Georges Clémenceau, on a parlé par les brigades du Tigre, c'est comme ça qu'il sera surnommé. Il occupe le poste de mars 1906 à juillet 1909, ce qui à l'époque est un record de longévité. Les ministres changent souvent de portefeuille, ce qui montre bien que l'administration continue malgré le changement de titulaire du portefeuille. Georges Clémenceau, c'est un Vendéen, né en 1841. Il dira que ses origines vendéennes lui ont donné le caractère d'un personnage obstiné. Il devient député dès 1871, il est connu comme élu radical, donc les républicains radicaux qui veulent l'application la plus radicale des principes républicains, qu'il s'agisse de la législation sociale, mais également de recouvrer l'intégralité du territoire national. Il est un des plus farouches partisans du retour de l'Alsace-Moselle, perdu par la France après 1871, qui sont devenus des territoires allemands, ce qui l'amène d'ailleurs à s'opposer à la colonisation, et à l'origine de l'expression notamment « la ligne bleue des Vosges », c'est-à-dire qu'il ne veut pas se perdre en colonies lointaines. Politiquement, il va être favorable à l'amnistie des communards, qui sera réalisée. Laïque, militant à l'origine de la séparation des églises et de l'État, et aussi connu pour sa défense du capitaine Dreyfus. Alors, en tout cas, comme ministre de l'Intérieur, lui-même va se définir comme le premier flic de France. Donc, on lui donne une expression qui fera florès. Et il se distinguera cette fois-ci par la répression des grèves. Alors, ça peut un peu surprendre que quelqu'un qui a l'origine de législation sociale se retrouve à réprimer les grèves. Mais il a une idée que la République doit être l'ordre et que l'extrême gauche ou les monarchistes sont une menace sur la République. Il cumule durant un temps cette fonction de ministre de l'Intérieur avec celle de président du Conseil, donc l'actuel Premier ministre. On trouvera ce titre Premier ministre plus tard. À l'époque, on peut cumuler un portefeuille ministériel, titre de Premier ministre. Enfin, là où il est le plus connu, c'est le père Lavictoire. Lavictoire, c'est parce qu'il est partisan de la guerre à outrance pour la victoire contre la Prusse à partir de 1917. Il sera l'un des grands négociateurs de la paix en 1918. Il se retirera de la vie politique en 1920 avant de décéder en 1929. Donc Georges Clemenceau, qui est probablement du ministère de l'Intérieur, celui qui est le plus connu et dans la galerie de portraits, celui auquel le plus grand nombre de titulaires du poste se réfèrent volontiers. Marx Dormoy, 1888-1941. Il occupait le poste de novembre 1936 à janvier 1938 et à nouveau en mars-avril 1938. Lui est socialiste. Il est né à Montluçon d'un père qui est cordonnier, de conviction socialiste. D'ailleurs, son prénom, Marx Dormoy, fait référence à Karl Marx. Lors du congrès de Tours qui voit la création du Parti communiste, il suit Léon Blum, donc il maintient l'appartenance à la section française internationale ouvrière et sera l'un des artisans du Front populaire. Il va être à l'époque très fortement critiqué par l'opposition pour ce qui est perçu comme de la bienveillance à l'égard des réfugiés étrangers en France, ce qui est en partie vrai, mais ses attaques relèvent aussi de l'image d'Épinal, puisque lui-même va aussi être à l'origine de mesures de lutte contre l'immigration clandestine. On pense notamment à la guerre d'Espagne, un certain nombre de camps de réfugiés dans le sud de la France. Il fait partie des parlementaires qui votent non au plein pouvoir au maréchal Pétain en 1940. Et enfin, il sera assassiné en 1941 par des membres de la cagoule, par une bombe artisanale. Et cette mort atroce fait aussi qu'il a figure de martyr dans le panthéon républicain et un certain nombre de lieux qui portent son nom. Troisième ministre que j'ai choisi, Raymond Marcellin, né en 1914, mort en 2004. Lui, il était ministre de l'Intérieur quasiment sans interruption de mai 68 à février 1974, au point que De Gaulle, dont on sait qu'il était partisan d'une solution plus directe, plus policière de réponse face à mai 68, plus répressive, voilà, disait « c'est Fouché le vrai ». Bon, c'est que Georges Pompidou a appelé à gérer la crise et au contraire a réussi à sortir tout en évitant la répression. Alors, Raymond Marcellin va devenir un canardion de l'ordre après mai 68. Il est très souvent caricaturé par l'extrême gauche. Il faut dire aussi qu'il est à l'origine d'un certain nombre d'interdictions d'organisations politiques. De formation, c'est un avocat. C'est un résistant. Il appartient à la droite non gaulliste. Il a été un député du Centre national des indépendants et paysans d'Antoine Pinet. Il sera ensuite chez Républicains indépendants et à l'UDF, résolument anticommuniste. On le connaît aussi, outre son rôle pour le maintien de l'ordre, par ses circulaires de 1972, avec un durcissement des lois sur l'immigration, puisque désormais, pour une carte de séjour, il faut disposer d'un contrat de travail et d'un logement décent. Il va aussi être lié à plusieurs affaires de la Ve République. De fait, quand on mise dans l'Intérieur, c'est sur vous qu'échouent notamment toutes les affaires liées au renseignement. On pense par exemple au plombier du cadran enchaîné. Et enfin, alors triste fin, mais il fait partie du victime du gang des saucissonneurs à Paris, qui étaient des spécialistes du braquage, cagoulés, et qui se spécialisaient sur des endroits un peu abandonnés de personnes âgées, et qui vont être arrêtés en flagrant délit par l'anti-gang. Et lui-même, malheureusement, a vécu cette expérience traumatisante en 2000. Il avait été ligoté et bâillonné.
Alors, j'aurais cru que vous alliez peut-être aussi envisager le personnage Pierre Joxe.
C'est vrai.
Qui était ministre de l'Intérieur pendant mon enfance et dont j'ai entendu parler, je pense, toute ma jeunesse, alors que mes parents étaient friands du journal télévisé. Bref, avançons dans ce podcast, Benoît Kennedy, j'étais parti dans mes souvenirs grâce à vous. Benoît Kennedy, en 2009, la gendarmerie nationale a été placée sous l'autorité du ministère de l'Intérieur, ce qui n'était donc pas le cas jusqu'alors. Était-ce la fin d'une exception française et pourquoi cette exception et pourquoi y mettre fin?
Alors en fait, la gendarmerie nationale, c'est l'héritière de la maréchaussée qui avait une compétence sur quasiment tout le territoire. On a vu que les grandes villes avaient un statut à part. Et au Moyen-Âge, la maréchaussée, c'est pas seulement de la police, c'est aussi de la justice, puisqu'elle avait aussi des compétences juridictionnelles. C'est pas terrible en termes de séparation des pouvoirs, la Révolution y mettra fin. Et donnera aussi à la maréchaussée son nom actuel en 1791. Alors aujourd'hui, effectivement, la gendarmerie a été placée sous autorité du ministère de l'Intérieur, en tout cas pour ses missions civiles. Pour les missions militaires, elle reste sous la tutelle du ministère de la Défense. On a souvent tendance à considérer qu'avoir une police nationale compétente pour les zones urbaines et gendarmerie nationale pour les zones rurales et périurbaines est une, et puis de fait, un certain nombre de banlieues de grandes villes sur une compétence est un peu une exception. En fait, pas tant que ça. Alors, sans aller jusqu'au Burkina Faso, on retrouve des modèles qui ressemblent dans d'autres pays européens. Aux Pays-Bas, la maréchaussée royale, qui a près de 7000 membres, a des fonctions spécifiques, notamment la protection de la famille royale. Le modèle sans doute le plus proche de chez nous, c'est l'Espagne et le Portugal. En Espagne, c'est la Guardia Civile, qui est compétente sur 80% du territoire. Au Portugal, c'est la Garde nationale républicaine, qu'on retrouve aussi dans d'autres pays comme le Canada, la gendarmerie royale, qui fait partie d'une police montée, ou en Turquie, la Gendarmas, G-A-N-D-A-R-M-A-S, donc on retrouve le nom gendarme tel qu'il est repris. Bref, l'idée d'une compétence spécialisée en fonction des espaces territoriaux et de la nature des territoires et de la nécessité d'un maillage le plus efficace possible n'est pas totalement une spécificité française.
Benoît Kennedy, pour en terminer avec ce podcast consacré à la place Beauvau, parlons à nouveau du ministère de l'Intérieur lui-même. Quelle est la place de ce ministère de l'Intérieur aujourd'hui parmi les différents ministères, dans le budget de l'État et les effectifs de la fonction publique?
Alors ça reste un des ministères les plus importants. Si on prend les chiffres de la loi de finances initiale pour 2024, l'Intérieur représente un peu plus de 300 000 emplois temps plein travaillés, emplois qui ont temps plein travaillé, 304 000 pour être précis, sur 1 985 000 fonctionnaires d'État, donc 15%. C'est-à-dire qu'un fonctionnaire d'État sur 7, un peu plus d'un sur 7, appartient au ministère de l'Intérieur. C'est le deuxième ministère après l'Éducation nationale, qui a un peu plus d'un million, 1 060 000 membres, donc qui représente plus de la moitié des effectifs de la fonction publique d'État. Aujourd'hui, si on regarde les crédits, c'est deux missions du budget général de l'État, la mission sécurité, on y retrouve la police nationale, la gendarmerie nationale, également la sécurité civile. En crédit de paiement, c'est-à-dire crédit de fonctionnement, je ne parle pas des autorisations d'engagement qui sont, correspondent à l'investissement, donc on a des chiffres un peu différents, on a un peu plus de 24 milliards d'euros. On a aussi la mission administration générale et territoriale de l'État, qui correspond, pour faire simple, au réseau des préfectures, un peu moins de 5 milliards d'euros. Bref, on a donc un peu plus de 29 milliards d'euros pour la sécurité publique, la sécurité civile, l'administration de l'État, donc qui reste, en termes budgétaires, quand même l'une des missions essentielles de l'État et l'une des plus importantes dans qu'il s'agisse des effectifs ou des moyens budgétaires qui lui sont consacrés.
Oui, on peut constater encore une fois que le budget, comme les effectifs, ne cesse d'augmenter. Ce qui est une bonne chose pour nos élèves qui préparent les concours de la police. Benoît Kennedy, merci pour ce podcast consacré à la place Beauvau. Je crois qu'on a décidé, et donc je me permets de teaser pour l'avenir, que nous poursuivrons cette série sur les lieux de pouvoir, peut-être en envisageant la place en deux.
Peut-être, volontiers.
À très bientôt dans les podcasts de l'ISP, Benoît Kennedy. Merci de votre écoute à tous. Au revoir.
Au revoir.